Radio Okapi. Okapi. Les titres de cette nouvelle édition, mise en garde de la société civile du Nord Kivu aux médias rwandais. Ces médias, selon cette structure citoyenne, diffusent des informations erronées sur le repérage de bandes frontières entre le Rwanda et la RDC, alors que les résultats des experts sont toujours attendus. Isangi, en province orientale, plus de 200 villages bénéficient depuis 3 ans de sources aménagées d'eau potable, un programme du gouvernement qui passe à sa deuxième phase. La neuroscience a besoin de moyens conséquents pour les recherches en Afrique et en RDC. Des chercheurs de cette branche de la médecine se réunissent depuis hier à Kinshasa pour réfléchir sur les plaidoyers à mener quant à ceux. Bonjour à tous. Dans un communiqué rendu public mercredi, la société civile du Nord Kivu s'est dit préoccupée par l'interprétation erronée que font certains médias rwandais quant au résultat des travaux de démarcation des bornes frontières entre la RDC et le Rwanda. La société civile du Nord Kivu s'est dit scandalisée par le fait que la presse gouvernementale rwandaise crie victoire concernant certaines collines disputées telles que celle de Kanyashija et Ehou qui serait rwandaise. Elle met en garde la partie rwandaise contre tout comportement des natures à provoquer la partie adverse. Des précisions de Gisèle Cage.
Notre structure est scandalisée d'entendre que, déjà, la presse rwandaise crie victoire alors que les résultats du travail des experts sur la démarcation des frontières sont toujours attendus. La société civile du Nord Kivu, qui a publié un communiqué de presse dans ces sens, parle de provocation et d'intoxication de la part de la presse rwandaise. Rachid Itumbula, l'un des experts congolais qui a participé aux travaux, souligne qu'il s'agit de prétentions fallacieuses.
Notre travail n'était pas d'interpréter, était d'identifier les emplacements des bornes pour la démarcation. Donc, une prétention de ce genre-là est même fallacieuse. Par rapport à la tranquillité que nous souhaitons, nous tous, ce serait imprudent de la part de la presse rwandaise d'aller dans cette direction, c'est suicidaire.
Selon toujours Rachid Itumbula, le travail d'identification étant achevé, les emplacements des bornes codifiées seront présentés à la commission mixte pour validation. Ensuite, il reviendra à celle-ci de présenter le rapport aux chefs d'État congolais et rwandais pour une décision finale. Pour rappel, les experts congolais et rwandais ont travaillé du 26 au 30 août sur la délimitation des frontières entre la RDC et le Rwanda. L'objectif était de repérer les bornes frontières selon les recommandations de l'Union africaine à tous les pays membres. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
En province orientale, plus de 200 villages du district de la Tchopo ont bénéficié depuis 3 ans des sources aménagées d'eau potable en vue de prévenir les maladies d'origine hydrique. Statistiques avancées hier jeudi à Isangi par le responsable de la direction provinciale programme village assaini, ce à l'occasion du lancement de la deuxième phase de ce programme du gouvernement congolais appuyé par l'UNICEF. Malgré ces statistiques, le docteur Théophile Yanyongo trouve que ces bilans de la première phase est mitigé. Joseph Bassaï de la radio Bondeko revient sur ce bilan.
11 zones de santé du district de la Tchopo bénéficient du programme Village Assaini, certaines depuis 3 ans et d'autres 10 ans. Selon les coordonnateurs provinciaux de ce programme, les animateurs sensibilisent les communautés au respect des règles d'hygiène, à l'assainissement du milieu et à la consommation d'eau potable des sources aménagées. Ce programme permet de réduire les maladies diarrhéiques et celles des mets sales en faveur de plus de 300 000 habitants du district de la Tchopo. Les organisations chargées de mettre en œuvre ce projet ont construit des puits aménagés des sources d'eau dans les villages certifiés. Pour les coordonnateurs provincial du programme Village Assaini, dans certains villages, ces puits d'eau sont tombés vite en panne et incapables de fournir d'eau potable à la population. De leur côté, les comités d'eau dénoncent plutôt la mauvaise qualité de certains ouvrages construits dans leur village. Un point de vue rejeté par les ONG chargées de la mise en œuvre de ce projet. Pour les coordonnateurs provinciaux de ce programme, la deuxième phase va évaluer la situation des villages certifiés assainis lors de la première phase et faire un suivi d'au moins une année avant de certifier un nouveau village. Isangi Joseph Bassaï, Radio Radio Okapi.
Et puis sachez que la MONUSCO met en place un plan de travail essentiellement logistique pour appuyer l'équipe médicale mise en place pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Équateur. Affirmation faite jeudi à Radio Okapi par le docteur colonel Umaru Salissou, directeur médical de la mission militaire de la MONUSCO. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
La MONUSCO ayant donc les moyens matériels et techniques déjà présents sur le territoire de la République démocratique du Congo, a décidé de mettre en place un plan de travail qui porte sur la logistique particulièrement à Mbandaka, à Boende et à Lokolia. Boende, un camp de logistique avancé sera créé et à Lokolia, donc, il est prévu donc l'aménagement d'un hélipad pour permettre donc le débarquement du matériel. C'est un site un peu éloigné donc du centre de traitement. Ceci va permettre donc la construction d'un camp de stationnement pour le personnel déployé sur Lokolia, donc tout le personnel qui prend en charge les malades.
Par ailleurs, le médecin militaire indique que la mission onusienne assure le transport de la logistique entre Mbandaka, Boende et Lokolia. Le PAM, Programme Alimentaire Mondial, dote ses installations de l'énergie solaire. C'est là grâce au projet Greening Planet qui promeut les énergies vertes respectueuses de l'environnement. Ce projet a été lancé jeudi aux entrepôts de cette agence des Nations Unies au quartier Kingabwa à Kinshasa. Jean-Pierre Elali Ikoko a vécu l'événement. Suivez son reportage.
Il s'agit de remplacer l'énergie thermique de groupes électrogènes et l'énergie hydroélectrique par l'énergie solaire. À Kinshasa, 12 panneaux solaires d'une capacité de 3 kW fourniront de l'énergie aux entrepôts du PAM. Dans son allocution des circonstances, Martin Olsen, représentant du PAM en RDC, a fait savoir que cela ferait gagner 30 000 dollars américains par an à réinvestir dans l'action humanitaire. Martin Olsen souligne l'importance du projet.
Ce qui est intéressant, depuis quelques années, le PAM a un projet qui s'appelle Greening Planet. Donc, les activités qui sont des activités écologiques à économiser l'énergie sont bienvenues. Et ça s'est aussi traduit dans les projets comme celui-là, là où nous avons de grands coûts de générateurs et c'est diesel.
Pour sa réalisation, le projet a reçu un financement de 180 000 dollars de la Fondation Howard Buffett et des 129 000 dollars de l'Agence suédoise de développement. Pour Mme Christina Heisel, chef adjoint de mission à l'ambassade de Suède, ce projet est une bonne illustration de coopération. Les entrepôts de Goma, de Kalemi, de Bunia et de Bukavu sont aussi concernés par ce projet des énergies renouvelables.
L'épilepsie et bien d'autres maladies qui touchent le système nerveux humain restent encore mal connues en Afrique en général et en RDC en particulier. Cette situation nécessite des moyens financiers conséquents pour permettre aux chercheurs de bien mener leurs études sur ces maladies. C'est ce qui justifie l'ouverture hier jeudi à l'hôtel Sultani de Kinshasa d'un séminaire sur les maladies neurologiques. Les chercheurs venus de la RSA, du Mozambique, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Maroc, du Kenya et du Sénégal réfléchissent sur des plaidoyers à mener auprès des autorités publiques, la société civile et les mondes financiers pour soutenir la recherche en neurosciences. Le professeur Pierre Louabeya Makassa, médecin neurologue de l'université de Kinshasa, en parle au micro de Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
En RDC, je citerai par exemple l'épilepsie qui est fort attendue, mais pour laquelle nous n'avons pas de chiffres corrects, puisque les études n'ont pas été menées correctement. On estime qu'il y a environ 600 000 personnes qui souffrent de l'épilepsie dans ce pays, mais ce sont des chiffres approximatifs. Il y a une autre maladie qu'on appelle Gonzo. C'est une maladie qui touche la moelle épinière et le cerveau du fait du manioc qui n'a pas été traité de façon correcte. Nous devons étudier toutes ces maladies, mais pour les étudier, il faut une fédération de forces entre le monde universitaire et le monde de la recherche scientifique, par exemple l'INRB. Mais cette fédération-là passera par les pouvoirs publics qui doivent donner des moyens à ceux qui font de la recherche. Pour mon texte, c'est un véritable problème de santé publique auquel nous sommes affrontés. Mais il faut que le médecin sache pertinemment bien ce que c'est que l'épilepsie, comment il faut poser le diagnostic, quels examens on doit faire et quels traitements il faut apporter aux populations. L'épilepsie, c'est une maladie curable dans certaines proportions, mais il y a un autre groupe où l'on ne peut que stabiliser les symptômes de la maladie.
Terminons ce journal par cette nouvelle. La voix de sans voix exige une autopsie sur le corps du feu général-major Lucien Baouma Mbamba, ancien commandant de la 8e région militaire, décédé samedi dernier en Afrique du Sud. Dans un communiqué parvenu à Radio Okapi mercredi dernier, la VSV juge suspecte la mort de cet officier général. Peter Toumba, coordonnateur des activités de la VSV, ne croit pas que l'accident cardiovasculaire soit la cause directe de la mort du général Baouma, comme annoncé par le ministère de la Défense. Il est joint au téléphone par Askenzik Batayro.
On voit de hauts officiers, de hauts rangs, qui constituent un espoir pour les femmes blessées, mourir, ça pose problème. Nous ne sommes pas même arrêtés à Mamadou Ndala, il y a aussi Boudia Mabé avant Mamadou Ndala. Et ça, ça inspire pas mal d'inquiétudes, et c'est comme ça que nous avons parlé des séries noires ou mais noires. Parce que les gens qui ne meurent pas au front, mais meurent dans des conditions obscures où on cherche à connaître ce qui s'est passé réellement. Alors ça, c'est nous a poussé, n'est-ce pas, à exiger une autopsie sur le corps du général M. Bahouma, enfin, de savoir exactement de quel mort il a été emporté.
Selon le ministère de la Défense, le général Bahouma est mort des suites d'un accident cardiovasculaire. Cela ne vous convainc pas?
Bon, c'est une déclaration. L'opinion, il reste, s'il se soit, c'est aussi exiger une autopsie pour n'est-ce pas, en avoir les cœurs nets.
Ce journal est fini. Il a été élaboré par Martin Seboujangwe et Suzanne Nzobo, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.